Chapitre 16. Quand elle se campa devant lui, l'homme leva sur Callan des yeux pleins de larmes. Après l'avoir attendu si longtemps, privé d'ordre à exécuter, il avait sombré dans un océan de désespoir. « Tu vas venir avec nous ?» dit froidement l'inquisitrice. « Tu marcheras devant le chariot, histoire qu'on garde un œil sur toi. À chaque instant, tu exécuteras les ordres de mes compagnons, comme si c'était les miens. » Et tu répondras sincèrement à toutes les questions que nous allons te poser. » Le type se jeta à plat ventre, embrassa les pieds de Callan et la remercia de daigner s'occuper de lui. Ainsi vautré dans la poussière, avec son entaille en forme de V à l'oreille, il ressemblait vraiment à un cochon.
« Arrête ça !»
cria l'inquisitrice, révulsée qu'un déchet d'humanité pareil ose la toucher. L'homme recula instantanément, le sang glacé par la colère qui faisait vibrer la voix de sa maîtresse. Comment avait-il pu lui déplaire? Désespéré, il s'immobilisa à ses pieds, terrifié à l'idée de faire encore quelque chose qu'elle n'aimerait pas.
« Tu ne portes pas d'uniforme, » dit Richard au prisonnier. « Tes camarades et toi n'êtes pas des soldats ?»«
Si, mais pas des soldats réguliers, »
expliqua l'homme, ravi de satisfaire Callan en répondant à des questions.
« Nous faisons partie des forces spéciales de l'ordre impérial. »«
Les forces spéciales, que veux-tu dire ?»
De l'incertitude passant dans ses yeux humides de larmes, l'homme jeta un regard interrogateur à Callan. L'inquisitrice ne lui fit aucun signe. Ne lui avait-elle pas déjà dit ce qu'il devait faire ? Comprenant que cette neutralité était une confirmation, le prisonnier débita à toute vitesse son discours.
« Nous sommes une unité spéciale de l'armée dont la mission est de capturer les ennemis de l'ordre, et pour ça nous passons des épreuves qui déterminent notre loyauté. Moins vite !»
coupa Richard.
« On ne comprend rien à ce que tu racontes. »
Le prisonnier regarda Callan. Lui avait-il encore déplu sans le vouloir ?«
Continue !»
dit l'inquisitrice.
« Mais plus lentement. »
« Nous n'avons pas d'uniforme, et personne n'est informé de notre mission. » En général, nous traquons les insurgés dans les villes. Nous nous mêlons à eux, faisant mine de partager leurs opinions. Quand ils complotent contre l'ordre, nous attendons d'avoir tous les noms des conjurés, puis nous les arrêtons afin de les interroger. »
Impassible, Richard dévisagea l'homme un long moment. Callan savait qu'il avait connu les prisons et les interrogatoires de l'ordre, et elle imaginait sans peine ce qu'il éprouvait devant ce tortionnaire.
« Faites-vous la différence entre les authentiques conspirateurs et les braves gens mécontents ?» demanda le sourcier. « Ou mettez-vous toutes leurs connaissances dans le même sac ?»«
Quand nous débusquons des traîtres, nous commençons par travailler sur ce que nous appelons le premier cercle, les meneurs du complot si vous préférez. Ceux-là doivent absolument craquer et nous dire tout ce qu'ils savent. »
L'homme s'anima, tout heureux de décrire en détail des méthodes de travail si raffinées.
Puis, nous nous intéressons aux membres de leur famille, à leurs collègues de travail, à leurs amis. Une partie de ces gens sont incarcérés et interrogés. Tous finissent par avouer des crimes contre l'ordre, une preuve que nous ne soupçonnons jamais personne sans raison. »
Callan crut un moment que Richard allait dégainer son arme et décapiter l'homme sans autre forme de procès. Quand on était entre les griffes de l'ordre, lui avait-il confié un jour, on racontait n'importe quoi pour obtenir un semblant de répit. Les dénonciations obtenues sous la torture remplissaient les prisons de nouvelles cargaisons d'innocents. Du coup, les bourreaux n'étaient jamais menacés par le chômage. Et les citoyens de l'Ancien Monde, même les plus respectueux de l'ordre, redoutaient en permanence d'être soumis aux attentions des spécialistes de la question. Les prisonniers étaient rarement de vrais conjurés. Dans un monde où survivre et assurer la subsistance de sa famille était un combat quotidien, la politique devenait un luxe hors de portée. Cela dit, beaucoup de gens parlaient de leurs rêves. Avoir une vie meilleure, faire ce qui leur plaisait, avoir une existence créative, œuvrer pour que leurs enfants connaissent un sort moins cruel que le leur. L'ordre impérial estimant que le sacrifice était le premier devoir de l'humanité, un sacrifice consenti pour le bien d'un autrui de plus en plus mystérieux et insaisissable, ses désirs innocents pour le pouvoir en place tenaient du blasphème autant que de l'insurrection. Dans l'Ancien Monde, la pauvreté et le malheur étaient des vertus majeures, un devoir et l'unique moyen de laver la souillure originelle. Bien entendu, certains citoyens ne rêvaient pas d'une vie meilleure,
parce qu'ils préféraient dénoncer leurs voisins qui disaient du mal de l'ordre et qui cachaient un peu de nourriture ou d'argent ou qui aspiraient au bonheur. Terriblement craints, ces délateurs passaient pour des saints aux yeux des fanatiques de la confrérie de l'ordre. Au lieu de dégainer son épée, Richard changea abruptement de sujet.
« Combien étiez-vous cette nuit ?»«
28. »«
Et vous avez attaqué tous ensemble ?»
Certain que Callan serait ravi qu'il ne dissimule rien, le prisonnier répondit avec enthousiasme.
« Nous voulions être sûrs que vous et là... »
Il s'interrompit, conscient que sa confession ne plairait sûrement pas à la mère inquisitrice.
« Pardon, maîtresse !»
s'écria-t-il.
« Pardonne-moi, je t'en prie !»«
Réponds à la question !»
lâcha froidement Callan. Malgré les larmes qui roulaient sur ses joues, l'homme parvint à se contrôler assez pour obéir à l'être qu'il vénérait par-dessus tout.
« Nous voulions attaquer en groupe afin de capturer le seigneur Hall et... Eh bien toi, mère inquisitrice. En principe, quand nous visons un groupe assez important, la moitié des hommes ne participent pas à l'attaque afin d'intercepter d'éventuels fuyards. Mais j'ai dit à mes gars que le seigneur Hall et toi, maîtresse, ne vous sépariez jamais. Afin de mettre toutes les chances de notre côté, j'ai ordonné une attaque massive. Mais d'abord... J'ai fait abattre les chevaux de monte pour interdire toute possibilité de fuite. Je n'ai jamais imaginé que nous allions échouer, maîtresse.
« Qui t'a envoyé ?»
demanda Callan. L'homme se traîna sur les genoux, tendant les mains pour toucher la jambe de Callan. La jeune femme ne broncha pas, mais son regard indiqua qu'elle n'avait aucune envie d'un contact de ce genre. Le type retira ses mains.
« Nicolas !»
répondit-il. Callan plissa le front. Elle aurait cru qu'il allait dire « Jagang ». Elle redoutait que celui qui marche dans les rêves soit en train de l'épier à travers les yeux de cet homme. Par le passé, l'empereur avait déjà envoyé des tueurs dont il contrôlait l'esprit, et face à ses marionnettes, même Kara était impuissante.
« Tu mens. C'est Jagang qui t'a envoyé. »«
Non, maîtresse !»
s'écria le prisonnier.
« Je n'ai jamais rencontré son Excellence. » L'armée est si grande, si puissante. J'exécute les ordres de mes supérieurs, et je doute que leur chef, et même le niveau suivant de la hiérarchie, intéresse le moins du monde l'empereur. Jagang est très loin au nord, occupé à apporter la bonne parole à des sauvages. Je doute qu'ils connaissent l'existence des unités comme la mienne. Nous sommes des équipes d'exécutants assez compétents et forts pour capturer ou réduire au silence les suspects que nous désigne l'ordre. Nous sommes tous originaires de cette partie de l'Empire, et c'est pour ça qu'on nous a recrutés. Pour Jagang, un homme comme moi n'a aucun intérêt.
Pourtant, il est venu marcher dans tes rêves.
Pardon, maîtresse ?
L'homme parut terrifié d'avoir répondu à une question par une autre question.
Désolé, mais je ne comprends pas.
Jagang s'est introduit dans ton esprit, et il t'a parlé.
Non, maîtresse. « Je n'ai jamais rencontré son Excellence, et je n'ai pas davantage rêvé de lui. À son sujet, je ne sais rien, sinon qu'Alter Rang a l'honneur d'être la ville où il est né. Voudrais-tu que je le tue pour toi, maîtresse? Si c'est ce que tu veux, permets-moi d'essayer. »
Le pauvre idiot ne savait pas à quel point il se montrait présomptueux, mais il était prêt à tout, quitte à en crever. Callan se détourna de sa marionnette, se pencha vers Richard et lui parla à l'oreille.
« Je n'en suis pas sûr, mais je crois que les personnes contrôlées par Jagang ont conscience de sa présence, ou au moins de son passage dans leur esprit.
Celui qui marche dans les rêves a peut-être trouvé un moyen d'occulter ce souvenir, pour mieux nous espionner, par exemple.
C'est possible, mais Richard, pense aux millions d'habitants de l'Ancien Monde. » Comment Jagang saurait-il qui il doit contrôler? Malgré ses pouvoirs, ce n'est qu'un homme.
« As-tu le don ?» demanda Richard au prisonnier.
« Non. »«
Nous tenons la réponse, » dit le sorcier. « Selon Nietzsche, Jagang s'intéresse fort peu aux gens dépourvus de magie. Comme il a plus de mal à les contrôler, il se concentre sur les sorciers et les magiciennes qui font le travail à sa place. » En ce moment, il doit se focaliser sur toutes les sœurs qu'il a capturées. Et si on en croit le début de la lettre de Nietzsche, il les a chargées d'une mission vitale, transformer des êtres humains en armes.
Comme il doit aussi s'occuper de l'armée et de la planification de la campagne, il est sûrement trop pris pour se soucier de second couteau comme ce type.
Peut-être, mais quand il le faut, il peut s'introduire dans l'esprit d'un pareil minable. Richard, nous devrions exécuter ce prisonnier, et vite.
Depuis le début, Richard foudroyait l'homme du regard. Dès qu'il ne jugerait plus utile de l'interroger, il n'aurait aucune pitié pour ce chien. Callan le savait.
« Un seul ordre de moi, » rappela-t-elle, « et il tombera raide mort. »
Richard soutint un moment le regard de sa femme, puis il s'intéressa de nouveau au prisonnier.
« Qui est le Nicholas dont tu as parlé ?»«
Un puissant sorcier dévoué à la cause. »
« Tu l'as vu et il t'a directement donné des ordres ?»«
Non, nous sommes trop insignifiants pour des hommes pareils. Les ordres ont suivi la voie hiérarchique, comme toujours. »«
Comment nous as-tu trouvés ?» demanda Richard.
« On nous a dit où vous cherchez, seigneur Hall. »
« Et d'où Nicholas tirait-il cette information ?»
Le front plissé, l'homme fouilla dans sa mémoire pour trouver la réponse.
« Eh bien... « Je ne sais pas, parce qu'on ne nous l'a pas dit. Nous avons reçu l'ordre de fouiller ce secteur et de vous capturer si nous vous trouvions. Le capitaine qui m'a transmis ces instructions était très clair sur un point. En cas d'échec, le chapardeur serait très mécontent. »«
Le chapardeur ? Qui est-ce ? » ?»«
Nicholas, le chapardeur. C'est son nom et on l'appelle souvent le chapardeur tout court. »«
Le quoi ?»
demanda Callan, tout aussi étonné que Richard.
« Le chapardeur, maîtresse. »«
Oui, mais pourquoi ce surnom ?»
L'homme inclina piteusement la tête.
« Je n'en sais rien, maîtresse. Tu m'as demandé qui nous envoie et j'ai répondu. Nicholas, un sorcier qu'on surnomme le chapardeur. »«
Et où est-il, ce sorcier ?»«
Je n'en sais rien, »
répéta l'homme.
« Je reçois des instructions de mon chef et c'est un frère de l'ordre qui les lui transmet. »
Richard prit une grande inspiration et se massa la nuque.
Que sais-tu d'autre au sujet de Nicholas? À part que c'est un sorcier surnommé le chapardeur, parce que ça, on a compris.
J'ai appris à le redouter, comme mes chefs le redoutent.
Pourquoi?
Demanda Callan.
Qu'arrive-t-il quand on le mécontente?
Il fait empaler les gens qui lui déplaisent.
Ajouté à la puanteur du sang et de la chair brûlée, cette révélation fut beaucoup plus qu'en pouvait supporter Callan. Si cet interrogatoire continuait, elle allait vomir, c'était une certitude.
« Richard, » dit-elle en prenant le bras de son mari, « tout ça ne sert pas à grand-chose. Partons d'ici, je t'en prie. Nous pourrons l'interroger de nouveau plus tard. »«
Tu marcheras devant le chariot, »
dit le sourcier sans hésiter une seconde.
« Je ne veux pas que ma femme soit obligée de te voir. »
Le type inclina la tête et obéit.
« Je ne crois pas que Jagang se soit infiltré dans son esprit, » dit Callan. « Mais qu'arrivera-t-il si je me trompe ?»«
Pour l'instant, il ne faut pas le tuer. S'il marche devant le chariot, Tom pourra le surveiller. Et si nous nous trompons, eh bien, notre ami est très adroit avec un couteau. »
Richard eut un petit soupir.
« J'ai déjà appris quelque chose d'important. »«
Quoi ? » ?»«
Mettons-nous en route et je te raconterai. »
Dans l'obscurité, Callan distinguait le chariot, prêt au départ. Tom ne quittait pas des yeux le prisonnier, déjà en position devant les deux grands chevaux de trait. Kara et Jensen étaient dans le véhicule. Friedrich, lui, avait pris place sur le banc du conducteur, près de Tom.
« Combien de cadavres ?» demanda Richard à Kara.
« Avec les quatre que Tom a laissés dans la colline, ça nous fait 27. »«
Donc 28 hommes avec le prisonnier. »
fit le sourcier, visiblement soulagé. Callan sentit soudain glisser la main qu'il avait posée sur son épaule. Sans crier gare, il cessa de marcher, vacillant sur ses jambes, puis se laissa tomber à genoux. L'inquisitrice s'agenouilla à côté de lui et lui passa un bras autour des épaules. Les yeux plissés à cause de la douleur, Richard se pressa un bras sur la poitrine et se plia en deux. Kara sauta du chariot et vint s'accroupir près de son seigneur. L'angoisse chassa instantanément la fatigue de Callan.
Nous devons rejoindre au plus vite la Sliff, dit-elle à Kara autant qu'à Richard. Zed pourra nous aider, mais le temps presse, et il faudra voyager vite.
Haletant, Richard semblait perdre inexorablement sa bataille contre la douleur. Ne pas savoir que faire pour l'aider brisa le cœur de Callan.
Était-ce donc cela la vie, rester éternellement impuissante devant la détresse des autres ?
Seigneur Hal,
dit Kara, on vous a enseigné le contrôle de la douleur. Vous devez le faire à présent.
Elle saisit Richard par les cheveux et le força à relever la tête.
Réfléchissez, souvenez-vous, remettez la douleur à sa place, vite.
Richard serra le poignet de son ami pour la remercier de son aide.
Impossible, souffla-t-il à Callan. Nous ne pouvons pas voyager dans la Slif.
Il le faut, c'est le moyen le plus rapide.
Et si ma magie me fait défaut au moment où je devrais respirer le vif argent?
Mais pour arriver à temps pour te sauver, c'est la seule possibilité.
Et si quelque chose tournait mal, je mourrais.
Richard haletait de plus en plus.
Sans l'aide du don, entrer dans la Slif est un suicide, et l'épée ne me répond plus. Si mes migraines ont pour cause la disparition de mon pouvoir, je mourrai dans la Slif dès ma première inspiration. Je refuse de prendre ce risque.
Callan en eut le sang glacé. Zed était le seul espoir de Richard. Sans l'aide d'un expert, les migraines provoquées par le don tueraient le sourcier. La jeune femme avait bien peur de savoir pourquoi la magie de l'épée trahissait Richard. Ça n'avait rien à voir avec les maux de tête. En revanche, c'était lié à ce qui avait brisé le fameux champ de force. Et la balise indiquait clairement que l'inquisitrice était responsable de cet événement. Si c'était vrai, elle portait de lourdes responsabilités sur tellement de plans. Et dans ce cas, comprit-elle, Richard avait raison au sujet de la Slif. Il serait incapable de la réveiller et encore moins de voyager en elle.
Richard Rall, puisque tu viens de jeter aux orties mon plan génial, tu as intérêt à en trouver un autre.
La douleur arrachait maintenant des gémissements au sourcier. Puis il toussa et Callan vit qu'il crachait du sang.
Richard !
Alarmé, Tom accourut. Quand il vit le sang sur le menton de son seigneur, il devint blanc comme un linge.
Aidons-le à monter dans le chariot,
dit Callan avec un calme forcé. Kara passa une épaule sous le bras de Richard et Tom le prit par la taille. Avec le concours de l'inquisitrice, les deux gardes du corps parvinrent à remettre debout leur seigneur.
« Nietzsche !»
souffla Richard.
« Pardon ?»
demanda Callan.
« Tu voulais un plan. J'en ai un. Allez voir Nietzsche !»
Richard luttait pour contrôler sa respiration, mais il ne pouvait pas s'empêcher de tousser et de cracher du sang.
Nietzsche était une magicienne, et il avait besoin d'un sorcier. Même sans utiliser la Slif, il devait tenter de gagner Aydindril.
« Zed sera plus à même de... »
commença Callan.
« Il est trop loin. Et n'oublie pas que Nietzsche peut pratiquer les deux variantes de la magie. »
Callan avait négligé ce point.
Oui, Nietzsche pouvait peut-être vraiment les aider.
À mi-chemin du chariot, Richard s'évanouit. Le soutenant du mieux possible, sa femme et ses deux amis le portèrent jusqu'au véhicule. Tom n'eut pas besoin de l'aide des deux femmes pour hisser le seigneur Hal dans le chariot où Jensen avait déjà déplié d'autres couvertures. Avec un détachement qui l'étonnait elle-même, mais il n'était pas question pour le bien de Richard qu'elle cède à la panique, Callan aida les autres à allonger son mari dans le chariot. Puis Jensen et elle tentèrent de se pencher sur lui pour voir comment il allait, mais la mort de Sith les écarta sans douceur. Se pliant en deux, elle plaqua une oreille contre la bouche du sourcier et écouta intensément. Elle tâta la carotide de Richard qui pulsait encore faiblement. Puis elle glissa sa main libre sous la nuque du sourcier, prêt à le soulever et à lui donner le souffle de la vie s'il le fallait. Ayant souvent besoin de garder des gens en vie pour continuer à les torturer, les morts de Sith étaient expertes en ce domaine, et ce talent leur permettait à l'occasion de sauver des vies.
« Il respire !»
annonça Kara. Elle se redressa et tapota l'épaule de Callan.
« Il va mieux. »
L'inquisitrice hocha simplement la tête. Si elle voulait continuer à feindre l'impassibilité, mieux valait éviter de parler. Alors qu'elle prenait place à côté de Richard, face à Kara, celle-ci entreprit de nettoyer le sang qui maculait le menton du malade. Callan ignorait que faire et ça la rendait folle.
« Nous voyagerons toute la nuit, »
annonça Tom en s'asseyant sur le banc du conducteur. Callan se força à réfléchir.
Que voulait-il faire déjà ? Ah oui, rejoindre Nietzsche.
Non,
dit-elle.
Alter Rang est très loin d'ici. Il n'y a pas de route à proximité et traverser un pays inconnu en pleine nuit est de la folie. Si nous les poussons trop, les chevaux ne tiendront pas le coup. Ils mourront ou se blesseront. Et si nous les perdons, je ne nous vois pas porter Richard jusqu'à notre destination. Le plus sage est de nous éloigner très vite d'ici, puis de nous reposer pour reprendre des forces au cas où il y aurait une nouvelle attaque. Si nous n'agissons pas intelligemment, nous sommes fichus.
Jensen prit soudain les mains de Callan.
Il avait une migraine et il a dû affronter ses hommes. Un peu de repos suffira peut-être à le retaper.
Callan apprécia cette façon de voir les choses, même si elle doutait de sa pertinence. Tendant le cou, elle regarda son prisonnier.
« Il y a d'autres unités ? Nicolas a-t-il envoyé plusieurs groupes à nos trousses ?»«
Pas à ma connaissance, maîtresse. »
Callan se pencha vers Tom.
« S'il fait le moindre geste suspect, tue-le. »
Le géant blond hocha la tête. L'inquisitrice recula et alla tâter le front de Richard. Sa peau était glacée et humide.
« Partons et avançons jusqu'à ce que nous ayons trouvé un endroit plus facile à défendre. Tu as raison, Jensen. Richard a besoin de repos, pas d'être secoué dans un chariot. Nous allons tous dormir un peu et nous repartirons à l'aube. »« Il faut trouver un cheval, »
dit Kara.
« Ce chariot est trop lent. Si j'avais une monture, j'irais chercher Nietzsche et je la ramènerais ici. Ce serait un gros gain de temps. »«
Bonne idée, » dit Callan.
« Nous verrons ce qu'on peut faire. Tom, en route. Trouvons un endroit sûr où camper. »
Le géant blond desserra le frein et fit claquer les rênes. Aussitôt, le chariot s'ébranla. Betty se coucha près de Richard, la tête blottie sur son épaule.
« J'ai tant de peine pour Rookin, »
dit Callan en voyant des larmes rouler sur les joues de Jensen. Betty leva la tête et poussa un bêlement plaintif.
« Richard se remettra, »
dit Jensen. Elle prit la main de Callan.
« J'en suis sûre. »